Le Maghreb décrypté avec Hassni Abidi.
L'Europe entre deux guerres se détourne-t-elle du Maghreb? Le thème de votre nouvel épisode de Maghreb décrypté. Il s'agit bien entendu de la guerre au Moyen-Orient et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bonjour, Hassni Abidi.
Bonjour.
Vous êtes politologue, vous dirigez le Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire part des conséquences géopolitiques de ces deux guerres sur le lien entre l'Europe et le Maghreb? Alors, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis cette nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Le paradoxe justement de cette configuration, c'est que les pays du Maghreb sont très loin géographiquement, c'est vrai, de théâtre des opérations, de l'Iran, mais bien sûr des pays du Golfe. Et en même temps, il y a une grande proximité, évidemment, il faut la relativiser entre les pays du Maghreb, mais il y a cette proximité. Il y a une dépendance d'abord sur le plan politique entre le Maroc, mais aussi l'Algérie, avec les pays du Golfe. Il y a des liens très importants entre le Maroc, par exemple, les Émirats, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite. Il y a aussi des relations très importantes entre le Qatar et l'Algérie. Le Qatar est devenu un des grands investisseurs en Algérie. Donc, on n'est pas très en retrait, finalement, par rapport aux conséquences. Deuxième élément, c'est que, évidemment, la saturation, en quelque sorte, des voies maritimes, mais aussi le déficit en matière de flux pétrolier et gazier, impactent deux pays, qui sont le Maroc et, bien sûr, la Tunisie, puisqu'ils importent le pétrole et le gaz de l'étranger. Et le troisième élément, c'est que le positionnement politique, il était très critique, parce que comment garder une relation avec l'Iran sans le critiquer, mais aussi montrer son soutien, exprimer son soutien aux pays du Golfe qui sont agressés par les Iraniens.
Il y a une proximité, vous le soulignez, avec les pays du Maghreb, mais il y a aussi une concurrence au sein de l'Union européenne, quand vous voyez le dernier déplacement en Algérie de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.
Oui, alors, c'est encore une autre part de ce paradoxe, c'est-à-dire que les pays du Maghreb, mais pas tous. Certains, bien sûr, on pense à l'Algérie, on reviendra sur la Libye, où l'Algérie est devenue très courtisée. Et souvenez-vous, ça nous rappelle un peu l'épisode de l'Ukraine, où tout d'un coup l'Algérie est devenue une capitale très très visitée par, il y avait même un bal diplomatique, par plusieurs pays, espagnols, italiens et même français, parce qu'il fallait absolument compenser un peu le déficit en matière de gaz surtout, puisque l'Europe importait 50% de ses besoins de gaz de la Russie. Et donc, il fallait absolument aller chercher des pays d'abord proches, comme l'Algérie, et qui sont occupés par deux gazoducs qui exportent le gaz vers l'Espagne et aussi vers l'Italie. Donc l'Algérie, elle se positionne encore une fois comme un partenaire fiable, comme un partenaire qui ne politise pas justement l'économie, qui ne fait pas d'usage politique. Le deuxième élément, c'est que les autres pays aussi sont très importants pour l'Europe. Le Maroc a un statut le plus avancé, elle a des relations qui sont très poussées avec l'Union européenne. Ça fait déjà des années qu'elle a signé des accords d'association. L'Algérie, elle peut en profiter pour justement avancer parce qu'elle est en train de négocier avec l'Union européenne. Mais le Maroc aussi ne veut surtout pas se priver, ne veut pas que l'Europe se détourne ou qu'elle perde l'intérêt finalement manifesté au Maroc et en Tunisie, parce que c'est vrai que l'Europe aujourd'hui, elle est sur deux fronts, le front ukrainien et le front de l'Iran.
Et vous dites que l'Algérie est très courtisée, mais peut-elle l'être sur le long terme? L'Algérie ne dispose pas des mêmes réserves que les pays du Golfe, bien entendu.
Bien sûr. L'Algérie a cet avantage, l'atout, c'est qu'elle peut augmenter la production du gaz. Mais comme vous l'avez dit, mais à moyen terme et à court terme, gageant que la crise, justement, ne va pas durer longtemps. Elle peut l'être, mais à condition que les Européens s'intéressent enfin, et ça c'est tout le problème, hormis les Italiens qui sont intéressés, les Algériens ont dit qu'ils étaient prêts à augmenter leur part donc dans le gaz, mais à condition que les Européens investissent. Comme vous le savez, les investissements sont très élevés. Et évidemment, l'Algérie a peur d'investir des milliards, et ensuite, après cette crise-là, il y aura encore une abondance du gaz sur le marché, les prix vont baisser, et donc cet investissement, il sera finalement vain. Donc ça, c'est une question très, très, très importante. L'Algérie, oui, elle a une capacité, mais elle est limitée.
Un élément très important, hein, c'est le fait que la situation en Europe soit très tendue, avec des restrictions sur le plan de l'essence. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
Absolument, c'est un élément d'inquiétude même pour tous les pays du Maghreb. C'est-à-dire que l'Europe, qui a des accords, l'Algérie exporte le pétrole et le gaz à l'Europe. Et ça, c'est très important, c'est son premier client. En cas de crise, d'abord, sur les finances publiques, l'Europe ne peut plus honorer ses engagements avec tout le monde. Il y a aussi des aides, il y a des projets économiques entre l'Union européenne, d'abord en tant qu'institution, en tant que marché commun, mais aussi entre les pays européens. Il ne faut pas oublier, c'est une relation finalement qui a deux niveaux, avec la Tunisie, avec la Libye, avec la Mauritanie et surtout avec le Maroc. Donc c'est ce qu'on craint du côté de Maghreb, c'est que les échanges économiques, les programmes de soutien européens, soit dans le cadre de Romed ou dans le cadre bilatéral, vont être impactés par la crise, par non seulement, c'est-à-dire que l'augmentation de prix du carburant, mais aussi par le niveau d'inflation, par aussi le coût du transport, et on oublie souvent, c'est un effort de guerre, c'est-à-dire les pays européens aujourd'hui sont appelés en quelque sorte aussi à s'intéresser, on a bien vu le vote récemment en France, c'est-à-dire à se doter d'un budget supplémentaire pour se réarmer, et tous les pays européens, évidemment ce budget supplémentaire pour se réarmer, il se fera au détriment aussi des budgets qui sont alloués à des relations internationales.
Et lorsque l'on parle de réserve d'hydrocarbures, on pense à l'Algérie. Un pays est oublié, la Libye. La Libye qui dispose de réserves très importantes. Pourquoi est-ce que l'Europe n'en profite pas?
Ah oui, la Libye qui dispose des ressources très importantes, mais il y a des ressources qui ne sont même pas encore explorées. C'est-à-dire que les recherches encore sont en cours, sont en pause dans certaines régions. Parce que ce clivage entre l'Est et l'Ouest, et normalement la Libye, c'est son opportunité. Et d'ailleurs, elle a organisé un sommet sur le gaz à Tripoli il y a quelques mois. C'est son opportunité pour se profiler finalement comme aussi l'autre partenaire fiable pour l'Union européenne, qui a d'abord un carburant de bonne qualité et aussi facile à extraire. Mais malheureusement, je pense que cet attrait pour le pétrole libyen va probablement alimenter encore les tensions de l'intérieur, parce qu'à la fois à l'Est, le gouvernement à l'Est et le gouvernement à l'Ouest vont comprendre l'intérêt de leur pays, et que tout le monde s'intéresse à la Libye, et donc la compétition qui est déjà en cours entre l'Est et l'Ouest va encore prendre du galant, c'est-à-dire qu'elle va probablement, le clivage entre l'Est et l'Ouest va se renforcer pour se positionner en tant que l'unique interlocuteur légitime pour l'Occident, capable évidemment d'augmenter la production de pétrole et aussi alimenter le marché européen.
Voilà, on parle du pétrole, des hydrocarbures. La politique de la France ces prochaines années, si la France mise sur le nucléaire, cela aura bien entendu un impact important sur les liens économiques avec les pays du Maghreb. Ça, c'est une éventualité qu'il faut prendre en compte.
Oui, miser sur le nucléaire, miser probablement aussi sur des énergies un petit peu renouvelables et propres, ça a un impact, bien sûr, sur les pays rentiers, dont les revenus sont basés sur les hydrocarbures, comme l'Algérie et évidemment la Libye. Et c'est pourquoi il est très important pour ces deux pays-là qu'ils saisissent cette opportunité. Parce que cette phase de transition, en quelque sorte, vers l'économie où on ne se base plus sur le pétrole, elle est importante, elle est positif pour ces pays-là, pour non seulement augmenter la production de pétrole et probablement améliorer leur budget, leurs finances publiques, mais aussi marquer des points politiques avec l'Union européenne.
Voilà, justement, là, on a parlé principalement des conséquences économiques, mais les conséquences politiques sont aussi très importantes.
Les conséquences politiques, vous savez, la position des pays du Maghreb n'est pas facile. Pas du tout facile face à ce qui se passe en Iran. D'abord, pour le Maroc, la relation elle est importante avec les États-Unis. Le Maroc était le premier pays à avoir condamné les agressions iraniennes contre les pays du Golfe. Et on comprend ça de par la relation importante avec Washington, mais aussi les pays du Golfe. Par contre, la position était délicate pour l'Algérie, qui a un partenariat, donc des relations suivies régulières avec les Iraniens, mais aussi qui ne veut pas aussi finalement s'éloigner des pays du Golfe, puisqu'ils sont attaqués, ils sont agressés par les Iraniens. Et en même temps, les Algériens veulent avoir une bonne relation avec les Américains. La question de Sahara occidental, elle est aussi un élément déterminant dans le positionnement de l'Algérie et du Maroc, par, bien sûr, pour craindre ne pas brusquer Donald Trump. Donc vous voyez que c'est très délicat. La Tunisie a une marge de manœuvre beaucoup plus réduite. La Libye aussi, elle est dans cette situation où, en fait, on a deux positions officielles, mais c'est une position plutôt qui est basée sur une certaine neutralité, éloignement, qu'un positionnement politique.
Vous évoquez cette délicatesse, sachant qu'il peut y avoir aussi une pression de la part des populations de ces différents pays nord-africains.
Ah, vous avez raison de poser cette question. On n'a pas malheureusement des sondages d'opinion, mais il aurait été vraiment intéressant de voir quelle était la position. Mais à travers ce qu'on voit, ce qu'on lit, etc., on voit bien, il y avait des manifestations donc plusieurs villes marocaines. En Algérie, bien sûr, c'est très difficile, hein, c'est interdit des manifestations, comme vous le savez. Mais on voit bien que les gouvernements observe une certaine retenue, une réserve, une grande prudence, mais les opinions publiques sont très fâchées, sont opposées finalement à la guerre. Ça, c'est un élément important. Même les opinions publiques en Europe, ils sont opposées. D'abord, c'est une guerre qui est illégale, n'a pas respecté le droit international. L'Allemagne le dit, l'Espagne aussi le dit, mais parce que les conséquences, elles seront directes. Et vous savez, dès qu'il y a la question israélo-palestinienne qui est aussi en jeu, l'agression contre le sud du Liban et contre le Liban en entier, c'est quelque chose aussi qui touche les populations arabes. La continuation de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie aussi touche. Donc on voit pour l'opinion publique arabe, ce n'est pas seulement l'Iran, mais c'est cette guerre américano-israélienne au détriment du droit international, comme si en fait c'est une continuation de ce qui s'est passé déjà à Gaza il y a quelques années.
Et lorsque vous parlez de l'opinion européenne, vous dites qu'elle est opposée à cette guerre, mais l'objectif affiché était de renforcer le régime des Mollahs, et là la population européenne est très favorable à ce renversement.
Oui, bien sûr, les populations veulent un changement. Mais tout le monde veut un changement. C'est le changement, il est tout à fait positif. Mais la population arabe a quand même, elle se souvient de changement par la force qui a été finalement le générique de l'intervention américaine en Irak, le changement par la force aussi en Libye, et malheureusement les conséquences étaient désastreuses, à la fois pour la population, mais aussi pour les Américains eux-mêmes, ceux qui ont mené cette guerre en Afghanistan pour démocratiser l'Afghanistan. Aujourd'hui, les Américains, après 20 ans, sont retirés, les talibans sont plus forts que jamais. Aujourd'hui, l'Irak, suite à l'intervention américaine, on a bien vu le résultat. Il est très difficile, en tout cas, de parler de la pertinence d'une démocratisation, un changement du régime vers un régime ouvert en utilisant les moyens forts, en utilisant la force. Vous savez, moi je dis toujours, quel est l'intérêt d'instaurer une démocratie encore, en tout cas le projet de démocratie, quand vous n'avez plus d'État? D'abord, l'État, un État debout, les infrastructures, les institutions sont très importantes. Les institutions, c'est plutôt l'œuvre de la population. La population doit s'approprier cet exercice. Il est lent, parfois il est même déprimant, mais on ne peut pas faire l'économie justement d'une construction démocratique graduelle par les populations elles-mêmes.
Sachant que la population iranienne a tenté de le faire plusieurs fois et a été fortement réprimée. Hein. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes tuées par le régime iranien.
Elle est toujours réprimée,
30 000,
la population.
30 000 personnes, absolument.
C'est toujours réprimée.
Un exercice particulièrement difficile. Le fait que les projecteurs soient braqués en ce moment, justement, sur cette guerre au Moyen-Orient, est-ce que cela peut avoir un impact politique dans les pays du Maghreb? Est-ce que le champ d'action des responsables est plus important?
Ben, brièvement, je peux vous dire qu'en fait, il n'y en a plus d'action, en quelque sorte. On a désactivé toute l'action entre l'Union européenne et le Maghreb. C'est-à-dire que l'Europe, aujourd'hui, elle est mobilisée. La question existentielle pour l'Europe, c'est la sécurité à l'Est. C'est la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, même la guerre en Ukraine, qui constitue un élément central dans la politique étrangère et politique intérieure de l'Union européenne, vous avez vu, elle a été éclipsée par la guerre en Iran, parce qu'elle touche le quotidien des Européens. Elle touche aussi la sécurité régionale. Donc malheureusement, le Maghreb paye aussi, ou les relations entre l'Union européenne aussi, sont dans une phase qui est inédite une phase d'attente, en quelque sorte, parce que l'Union européenne n'a pas les moyens, justement, de pouvoir continuer à gérer d'une manière continue la relation avec tous les pays du Maghreb et en même temps s'occuper de cette grande crise qui mobilise tous les pays européens.
Un grand merci, Hasni Abidi. Vous avez répondu à cette question très complexe. L'Europe entre deux guerres se détourne-t-elle du Maghreb? Hasni Abidi, vous êtes politologue et vous dirigez le CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Fin de cet épisode de Maghreb décrypté et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient. Merci Hasni Abidi.
Merci beaucoup à vous.
C'était le Maghreb décrypté avec Hasni Abidi.